Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr.
Bonjour à toutes et tous. Au programme de notre émission cette semaine, de la musique avec Guillaume et son invité, la superbe Milena. Les quatre expositions du Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne avec Gaël et une lecture par Thomas, André Dautel, Le ciel du faubourg. Nous terminerons par quelques Gédéons. Merci de prendre le temps de cultiver votre curiosité. Nous débutons avec toi, Guillaume. Nous sommes heureux de recevoir Milena, que nous avions entendue en duo avec Danilo dans une reprise de Joe Dassin qui a fait mouche entre nos deux oreilles. Je vous laisse pour nous faire découvrir l'actualité de cette charmante artiste.
Et oui, c'est vrai que cette reprise était assez étonnante. On nous l'avait offert, enfin Guillaume, Danilo nous l'avait offert juste pour Noël. Bah, commençons peut-être par ça. Déjà, tu disais en aparté que c'est quelque chose que vous jouez souvent en concert tous les deux. Alors, pourquoi cette chanson? Pourquoi Joe Dassin?
Alors oui, ça fait un moment déjà qu'on reprenait cette chanson et c'est moi qui suis allée vers Guillaume et qui lui ai proposé qu'on reprenne cette chanson ensemble. Je sais pas, je me suis dit qu'on pouvait en faire quelque chose de plus moderne. J'adore cette chanson, je l'entends depuis que je suis toute petite. Mon père est un fan de Joe Dassin parce qu'on écoute aussi Joe Dassin en Arménie.
Alors bah, transition tout trouvée parce qu'effectivement tu viens de parler d'Arménie, c'est vrai que tu es franco-arménienne. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Parce que si j'ai bien compris, tu as rencontré l'Arménie tardivement parce que tu es en France depuis très longtemps. Tu es peut-être née en France d'ailleurs.
Non, je suis née en Arménie.
Ah oui.
Je suis née à Erevan, dans la capitale. Effectivement, je garde un très grand lien avec mes racines. C'est très important pour moi. Je parle toujours cette langue, tous les jours avec mes parents. Et voilà, je suis encore très proche de ma culture et de mes racines. C'est très important pour moi.
Tu as sorti un EP qui s'intitule Armat.
C'est ça.
C'est quoi la traduction?
Ça veut dire racine.
Racine, justement. Bon ben voilà, on est en plein dedans. Et donc sur cette EP, tu mélanges le français et l'arménien.
C'est ça.
Et moi, j'avais envie de te demander, bah alors quand tu crées tes chansons, est-ce que tu crées différemment quand tu penses à une chanson en arménien ou en français? Qu'est-ce que ça change dans la façon de faire, en fait?
Et bah, souvent, quand on me pose cette question, je pense que c'est des sujets différents qui me viennent en arménien et en français. En français, ça va être plus tout ce qui est ma vie actuelle, ma vie de jeune femme, mes histoires amoureuses. Alors que tout ce qui va être plus en arménien, c'est plus la nostalgie, ça va plus parler de ma famille aussi. Donc voilà, c'est des sujets très différents que j'aborde, mais ça m'arrive quand même des fois aussi de parler de ma vie actuelle en arménien.
Alors moi, quand je t'ai découvert, la plupart du temps, tu étais en guitare-voix, en solo, mais je t'ai vu aussi en groupe. Je crois que tu jouais avec trois musiciens, et là, c'est pareil. Qu'est-ce que ça change? Ça envoie quand même beaucoup plus avec les trois autres musiciens.
C'est vraiment deux choses très différentes. Et justement, j'allais justement en parler sur mes réseaux dans quelques temps, mais j'ai décidé d'arrêter la formule en groupe parce que ça me prenait beaucoup trop d'énergie de faire... du coup, le groupe et aussi le solo. Et en fait, je me sentais plus en phase avec les arrangements aussi en groupe. Et je me suis dit qu'en fait, ce qui me correspondait peut-être le plus, c'est d'être seule sur scène pour l'instant, de livrer mes chansons et de... Je me trouve encore plus sincère toute seule, en fait. Donc, j'ai pris cette décision qui a été assez dure quand même parce que je m'étais beaucoup attachée à mes musiciens. Mais bon, il faut avancer. Donc, voilà, je pense que ça va permettre d'avancer encore plus.
On l'a dit, tu avais sorti un EP. Est-ce qu'il y a une prévision de sortie d'un autre disque? Tu es déjà en phase de création?
Là, je suis en phase de création et je suis en train de... J'ai déjà des nouvelles chansons, mais je suis en train de monter le live avec ces nouvelles chansons en solo. Voilà, donc je reprends là cette année une tournée qu'en solo avec ma guitare. Et voilà, j'ai hâte et puis je continue à créer encore et j'aimerais bien sortir un nouvel EP dans pas trop longtemps.
Et donc là, tu es signé sur un label? Enfin, comment ça
marche?
Tu es complètement indépendante?
Je suis encore indépendante, j'ai envie de trouver la bonne personne.
Ouais. Et donc tu es dans cette démarche?
Je suis dans cette démarche là aussi et pour l'instant je patauge un peu, je sais pas trop encore parce que j'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de faire des pas en arrière aussi, j'ai envie de continuer à avancer. Je pense que pour ça il faut vraiment quelqu'un qui comprenne vers où je veux aller.
Il faut dire que tu as joué avec Mathieu Chédid l'année dernière,
il y a deux ans.
2023, c'est ça.
Ouais.
Bon, Mathieu Chédid, il a l'habitude de faire venir des gens dans son spectacle, sur scène. Mm-hmm. Et donc, alors, mais comment ça s'est passé cette rencontre?
Ça a été juste incroyable. Franchement, c'est une de mes meilleures expériences sur scène. Et Mathieu, c'est quelqu'un que je voulais vraiment rencontrer, qui m'inspire beaucoup, en fait, dans son personnage, dans sa manière d'être sur scène. Enfin, vraiment. Et puis, même humainement, il était comme je pensais. très simple et très humain. Et je pense que franchement, cette expérience, elle m'a permis de comprendre qu'on peut faire beaucoup de choses toute seule, qu'on peut arriver à des grandes choses. Et je pense que ce truc aussi un peu auto-entrepreneuse, ça me plaît bien.
Mais il faut faire comprendre aux auditeurs que là, c'était sur scène avec des milliers de personnes autour. Mmh. T'étais au milieu. Enfin voilà, c'est quand même impressionnant pour une, entre guillemets, une première fois. C'était pas ta première scène, mais bon, là, c'était quand même impressionnant.
Non, c'est sûr, j'avais jamais joué devant autant de personnes. Je crois qu'il y avait 15 000 personnes sur cette date-là. Et en fait, comment ça s'est vraiment passé? J'ai envoyé une vidéo de reprise à Mathieu, qui l'a vue et qui l'a validée, et qui m'a appelé après pour venir partager la chanson avec lui.
D'accord. Tout à l'heure, tu disais que tu étais en phase de création. Est-ce qu'il y a un titre qui va sortir très prochainement?
Oui, je sors un nouveau titre en français qui va sortir le 7 février prochain avec un clip qu'on a tourné encore en Arménie. Et voilà, c'est un sujet très important pour moi. Je parle de ma grand-mère arménienne, justement, qui habite là-bas, d'où aussi pourquoi est-ce qu'on a tourné en Arménie cette chanson. Voilà, c'était pour garder le lien avec elle et je parle d'elle et à quel point je l'admire.
D'accord. Est-ce qu'on peut écouter le titre?
Oui, bien sûr.
Eh bien, on va écouter le titre. Quel est son
Comme
titre?
Chaque hiver.
Comme chaque hiver.
J'ai tant cherché à te ressembler, toi qui ne faneras jamais. Ton odeur, tes bijoux abîmés, je les ai accrochés, j'ose pas les porter. Tes yeux noirs dans la glace sont remplis de ton odeur. J'ai lu ton histoire sous tes paupières. Tu me raconteras tout comme chaque hiver. J'ai tant cherché à te ressembler, toi qui ne faneras jamais. Ton odeur, tes bijoux abîmés, je les ai accrochés, j'ose pas les porter. J'ai emprunté ton tailleur vert orange, ce même tissu qui nous mélange. Tu me trouves aucun défaut. Je me suis inspirée de tes mots pour m'enrichir, ne pas vivre dans le faux. J'ai tant cherché à te ressembler, toi qui ne faneras jamais. Ton odeur, tes bijoux abîmés, j'ose pas les porter. J'ai tant cherché à te ressembler, toi qui ne faneras jamais. Ton odeur, tes bijoux abîmés, je les ai accrochés, j'ose pas les porter.
Donc on vient d'entendre Comme chaque hiver de Milena, donc un clip qui sort le 7 février. Il est magnifique, il y a une lumière incroyable hein, sur un toit à Erevan hein, avec un tapis persan, je suppose, vraiment magnifique. On peut peut-être annoncer quelques dates de concert. Mm-hmm. Donc il me semble que tu joues très prochainement à la salle des Rancis le 27 mars.
C'est ça.
Mm-hmm. D'accord, dans le cadre du festival des Champs de Mars qui existe encore et on se bat pour qu'il existe. D'accord. Et tu seras en première partie d'une autre artiste qui est vraiment intéressante.
Oui.
Qui s'appelle
Lisa Ducasse.
Ouais. Voilà. Et puis d'autres dates, mais qui sont plus éloignées. Je crois que tu joues à Porte-les-Valences, mais là, c'est au mois de juillet.
C'est ça.
les frimas seront passés. Voilà.
Et je joue pour Jérémy Frérot.
Exactement. Oui, voilà, en plus, toutes tes dates, tu fais des dates assez prestigieuses. Alors, quand tu dis que tu es en autonomie, moi, je trouve bravo de trouver les dates comme ça.
C'est beaucoup de boulot, mais franchement, je suis contente de voir qu'il y a du résultat.
Ouais, tout à fait. Eh bien, écoute, on te remercie beaucoup. Merci et puis, on a hâte de voir ce clip. L'hiver sera toujours pas fini, donc tu as bien raison de sortir cette chanson au mois de février. Merci beaucoup,
Merci
Milena.
Merci beaucoup à vous.
Bonjour Gaëlle, dans mon lancement tout à l'heure, j'évoquais une actualité riche au musée de Saint-Étienne. 4 expositions pour notre plus grand plaisir. Nous t'écoutons.
Le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, ouvert en 1987, n'avait jamais été rénové. C'est chose faite après 37 ans. Aurélie Volz, directrice du musée, souligne combien les travaux effectués ont été conséquents. Rénovation pour favoriser une meilleure circulation dans les salles d'exposition, elle-même reconfigurée, 6 mèzes, sol, ventilation, climatisation et lumière zénithale. Le musée célèbre sa réouverture avec 4 expositions, hors format et brand new, exposition transversale. Les deux autres monographiques consacrent respectivement David Mesky et Anne Bourse. Hors format, commissionné par Zoé Marty, présente les œuvres majeures de la collection du musée, telles que Akbatana II, vaste variation de demi-cercle coloré de Frank Stella, artiste minimaliste décédé en mai dernier. Le titre Akbatana renvoyant au plan circulaire des anciennes cités de l'Asie mineure. Autre œuvre emblématique, la peinture abstraite intitulée Glen de Gerhard Richter. L'œuvre dévoile magistralement ses couleurs sous-jacentes grâce à des gestes de raclage de couches de peinture superposées. Champ coloré magnétique et superbe travail sur la texture. Claude Viala, Simon Antaille, Pierre Soulages, Jean-Pierre Reynaud, Barthélémy Togo ou encore Jacques Villeglé, Claude Viala et Julien Schnabel figurent également dans la sélection. Nombre de ses œuvres possèdent des formats monumentaux, ce qui explique le titre « hors format ». La deuxième exposition, Brand New, commissionnée par Alexandre Koala, met en avant les acquisitions récentes et les donations. 1000 m² accueille 179 œuvres de 19 artistes, œuvres datant des années 60 à nos jours. Hans-Peter Fellmann est présent avec une œuvre de la série Paintings of Light, peinture de lumière. Une création matérialise dans un halo lumineux une surface rectangulaire qui semble accrochée sur deux clous au mur. Audacieuse, voire sarcastique trace d'un tableau fantôme. Pour Hans-Peter Fellmann, la mémoire des images est plus importante que les images elles-mêmes. La mise en valeur du tableau se fait ici par son système d'accroche et le dispositif d'éclairage. Geste artistique empreint d'une grande facétie. Autre œuvre de la sélection Brand New, une photo de la série « Soi derrière soi » d'Eléonore Fals, artiste qui travaille la photographie-sculpture. Vous êtes invité à tourner autour d'une grande feuille métallique courbée et posée en équilibre au sol. Le titre « Soi derrière soi » suggère d'ailleurs de passer derrière cette feuille métallique. Sur une face de l'œuvre figure une impression photographique de la danseuse Isadora Duncan, cliché initialement pris par Edward Station. Le spectateur sollicite ainsi autant la vision que la gestuelle de son corps. Mouvement chorégraphique éloquent en écho avec la représentation d'Isadora Duncan, papesse de la danse moderne. Gros coup de cœur pour la troisième exposition commissionnée par Aurélie Volz, la directrice du musée. Elle consacre le photographe géorgien David Mesky, fils de l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de gymnastique de l'ex-URSS. Ces photos rendent hommage et magnifient dans des prises de vue aériennes les corps des athlètes en mouvement. Corps saisi dans une esthétique qui joue avec la profondeur de champ et le flou. Coup de cœur tout particulier pour les tirages empreints d'une délicate palette de couleurs poudrées et pastels. Intitulé « Our Son, My Moon »,« Notre fils, ma lune », l'accrochage propose des clichés de corps en envol, bondissant, étiré, allongé, suspendu, en apesanteur. David Mesky défie les lois de la gravité et fait de nombreux clins d'œil aux angles de prise de vue audacieux du constructiviste russe Alexandre Rodchenko, qu'il admire. 70 tirages sont exposés soit au mur, soit dans des vitrines. Cette scénographie insiste sur deux angles de vue, frontal ou en plongée, ainsi offert au spectateur. À noter, l'exposition personnelle de David Mesqui fait l'objet de la publication du premier catalogue de l'artiste, fruit d'une coédition du musée avec Leitmotiv. Enfin, la dernière exposition honore la création émergente, avec la lauréate de la 11e édition du prix des partenaires du musée, un prix dédié aux arts graphiques. La lauréate, Anne Bourse, propose dans ce solo intitulé « Nuit » des installations dans lesquelles des assemblages de fils dialoguent avec la ligne dessinée et la tradition stéphanoise de la rubannerie. Les expositions sont programmées jusqu'au 16 mars et hors format jusqu'au 11 août. À noter une projection rencontre avec David Mesqui organisée ce 22 janvier à 20h et une conférence relative à l'histoire des collections du musée dans le cadre de l'exposition hors format donnée le 27 janvier à 18h30. Plus d'informations sur mamc.saint-etienne.fr.
Merci beaucoup Gaëlle. Bonjour Thomas, tu nous fais entendre les mots d'André Dautel dans Le ciel du faubourg. Nous t'écoutons et on en parle bien sûr juste après.
Il n'espérait pas s'y cacher, mais il fallait laisser passer une sorte de vent de mort qui cavalcadait derrière eux dans l'éclatante après-midi de juillet. Ils se blottirent derrière la charrette qu'on avait mise à cul. Angèle marmonna ses prières. Quand ils songèrent à lever les yeux pour regarder dans le haut de la porte si le ciel bleu était toujours à la même place, ils aperçurent un homme debout de l'autre côté de la charrette. L'homme portait un grand chapeau gondolé qui assombrissait ses regards. Une petite moustache soulignait ses lèvres horriblement longues. Sur ses épaules, une veste imperméable avec un rabat flottant et qui lui donnait l'air d'être sorti d'une image représentant quelques pirates. Mais l'homme était bel et bien réel et bien vivant. Il regardait les gosses. Toutefois, il ne jugea pas utile de leur parler. Sans doute, il était entré dans le garage derrière eux et il les avait suivis tout à l'heure, tandis qu'ils couraient. Maintenant, il s'occupait de fixer sur ses poignets des gants verts à crispin. Par cette chaleur, cela semblait une occupation insensée. Il ajustait soigneusement ses gants, sans cesser d'examiner les gosses dont les visages étaient blancs comme les murs. Cela dura un temps immense. Enfin, il saisit le guidon d'un vieux vélo moteur que les enfants n'avaient pas remarqué en entrant et qui était contre une roue de la charrette. Ils virent l'homme sortir tranquillement, monter sur sa machine et filer le long de la rue. Il n'avait pas mis le moteur en marche. Barros s'élança le premier et sur la porte il se mit à crier « À l'assassin !» Les autres le suivirent et répétèrent « À l'assassin !» Il n'y avait aucune raison de crier cela. L'homme ne pouvait pas avoir tué d'assigne, personne ne pouvait l'avoir tué, ils en étaient sûrs et pourtant il leur fallait crier cela. Aussitôt, Angèle affirma qu'on devait rattraper ce personnage et ils coururent avec la plus grande conviction derrière leur assassin. En vérité, les démarches de l'homme se révélèrent assez bizarres. Ils réussirent à le voir qui traversait la rue. Au lieu de s'éloigner le long de l'avenue sur son vélo moteur, l'homme avait mis pied à terre et conduisant sa machine à la main, il parvint au trottoir opposé juste devant l'arrêt de l'autobus 207 bis. « Ça, tu pourras le jurer, » dit Barros à Turluquet. « C'est précis comme indication. »« Voilà qu'il va entrer dans l'usine, » dit Angèle. C'était une petite fabrique d'ampoules à pharmacie. « Non, il n'est pas dans l'usine, » souffla Barros. L'homme avait obliqué le long du grillage et rejoint un espace exigu ménagé entre le grillage et un immeuble. Ce fut là qu'il mit son moteur en marche et qu'il démarra dans l'entranglement. « Mais où donc il va ?» gémissait Angèle.
Suspense. André Dautel, ça fait du bien d'entendre ces mots un peu, peut-être, j'allais dire surannés, mais pas forcément, mais en tout cas, qui parlent de la campagne avec une précision, une acuité absolument incroyable. Parle-nous de cet auteur.
Alors André Dautel, c'est un auteur qui a traversé le XXe siècle. Il est né exactement en 1900 et il a disparu assez âgé en 1991. Il a eu une certaine notoriété quand même parce qu'il a eu le prix Femina dans les années 50. il est bien bien oublié quand même aujourd'hui. Je crois que tu as l'intention de diffuser un reportage où il indique avoir 5 ou 7 000 lecteurs, ce qui peut faire rêver beaucoup d'auteurs d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est à la fois quelqu'un qui est parvenu à une certaine notoriété et un certain oubli. Voilà, je pense que c'est aussi lié à ses sujets. Il traduisait un peu la vie des villages, des situations amoureuses, etc. Donc rien de très extravagant ou quoi que ce soit, mais il arrivait à poser sur ses récits une couche d'étrange très très fine, mais qu'on n'arrive pas à décoller. Voilà, et donc par exemple dans ce passage, cet homme qui se fait assigner le rôle d'assassin, on ne sait pas trop pourquoi, les gamins n'avaient aucune raison, effectivement il y a eu une mort d'un personnage quelques pages plus tôt dans l'histoire, mais tout indique qu'il est mort accidentellement ou d'un arrêt cardiaque, on ne sait pas trop, mais certainement pas d'un assassinat, et là on crie à l'assassin, on ne sait pas pourquoi. Et voilà, c'est exactement ça d'Hôtel, une petite couche d'étrange qui bouscule pas mal, je trouve. Enfin, moi, ça va me chercher dans certains aspects de la vie où notre esprit se fige, notre pensée se referme ou est tentée de se refermer sur un sentiment, une pensée, alors que finalement, ce qui nous a amené à cette pensée est très fin, très mince et peut-être doit être mis en cause. Et bien, lui, il met une couche qui remet en cause tout ça. Il met du jeu là-dedans, voilà.
Parle-nous de ton actualité. Je crois que lundi 27, il y aura une rencontre littéraire où tu présentes ton dernier ouvrage.
Oui, tu me prends de court, Gaëlle. Ce qui sort de moi est effectivement un bouquin sur lequel j'ai travaillé 20 ans. Ça a commencé par des photos, c'était pas directement du texte, mais le texte est venu au bout de quelques années. En 20 ans, ça laisse le temps d'avoir plusieurs étapes, hein, et il y en a eu beaucoup. C'est des micro-fictions, c'est pas de la poésie, donc c'est mon premier livre de vrai récit, avec une sorte de mise en rapport sur le sujet des écrans, du quadrillage du monde et des idées, des portes aussi, qui était le sujet de mes photos à l'époque. Voilà, une logique un peu géométrique où je rapproche des éléments comme cela et avec des récits de remise en question, pas mal de choses.
Alors, on en reparlera bien sûr à ce micro, mais je voulais parler d'actualité puisque lundi à la Villa Gilet, il y aura donc une rencontre avec d'autres auteurs, Rhône-Alpes.
Oui, l'Agence du Livre a cette habitude deux fois par an, donc il y a la rentrée d'automne et la rentrée d'hiver, d'interroger les auteurs qui vivent dans la région sur leur actualité. Et donc, je serai aux côtés de Judith Viard, notamment, de Christophe Siebert, voilà, qui sont des auteurs à lire, et puis d'autres que je connais moins, mais ça va être l'occasion pour moi de les connaître.
Fin d'après-midi, début de soirée à la Villa Gilet, il est prudent de réserver, je crois.
Il est même obligé de réserver, oui, tu fais bien de le dire. C'est sur inscription auprès de l'Agence du Livre régionale.
Merci beaucoup, Thomas.
Merci, Gaëlle.
Nous terminons avec nos Gédéon, nos coups de cœur du moment. Guillaume, c'est toi qui commences.
Alors moi, ça sera pas un coup de cœur, ça sera un coup de poing. Voilà, d'habitude, je viens avec des disques, et puis là, ça sera un livre. C'est le troisième livre d'une autrice qui s'appelle Louise Chenevière, aux éditions Paul. Elle vient de sortir un ouvrage qui s'intitule « Pour Britney ». Alors, ça parle évidemment de musique, puisque la Britney en question, c'est Britney Spears. Ce livre, vraiment, je ne sais pas, à la fin de la lecture, je peux pas vous dire si j'ai aimé ou pas aimé, mais vraiment, on n'en ressort pas indemne. C'est une sorte de livre manifeste, féministe, oui, alors j'aime pas le mot féministe parce qu'il est galvaudé, même si évidemment c'est un sujet très important et qu'on est féministe ici à Gécomodéon, mais en tout cas, c'est un livre particulier. Ce livre, pour Britney, c'est une sorte de long cri, où vous allez être très surpris par la façon d'écrire. Alors, on avait été déjà touché par le livre de Neige Chino l'année dernière avec Triste Tigre. Et pareil, c'était une écriture particulière. Il fallait vraiment rentrer dedans pour vraiment s'imprégner du bouquin. Mais là, c'est un petit peu pareil. Ce livre de Louise Chenevière, qui s'intitule donc « Pour Britney ». C'est un descriptif, vraiment, faut le lire. Alors oui, ça parle de Britney Spears. Oui, c'est la star qu'elle adulait quand elle était enfant, qu'elle a ensuite rejetée. Oui, je n'ai jamais, moi, personnellement écouter Britney Spears, donc je me disais mais pourquoi je vais lire ça, en quoi ça va me passionner, et en fait c'est vraiment très intéressant, d'autant qu'elle mêle aussi une autre autrice malheureusement décédée, suicidée, qui s'appelle Nelly Arcan, évidemment l'autrice québécoise qui avait beaucoup souffert de son passage à la télé française avec cet abruti de présentateur dont je citerai pas le nom, tout le monde en parle je crois, hein, cette émission que vous connaissiez certainement, c'est sur le corps des femmes, sur comment justement on regarde les femmes et pourquoi on devrait peut-être faire davantage attention, ou peut-être des fois on fait trop attention, je ne sais pas. C'est un peu confus ce que je suis en train de vous dire, mais parce que vraiment c'est un bouquin assez bouleversant. Encore une fois, moi je vous le conseille, c'est aux éditions Paul, ça s'appelle Pour Britney, c'est vraiment un, non pas un coup de cœur, c'est vraiment particulier.
Un coup de poing,
voilà, c'est ça.
Merci Guillaume. Gaëlle.
Mon Gédéon de la semaine est le film Je suis toujours là, du Brésilien Walter Salles. Après Central do Brasil, Carnet de voyage et Sur la route, le réalisateur nous plonge dans une saga familiale durant la dictature militaire au Brésil dans les années 70. Film inspiré d'une histoire vraie, celle du calvaire de la famille Paiva. Rubens, le père, ingénieur et membre du parti travailliste, est enlevé pour avoir soutenu des opposants au régime. Sa femme, Eunice Paiva, mène un combat, voire une croisade, contre la disparition et l'oubli de son mari. Le film nous fait suivre les épreuves de la famille Paiva sur plusieurs années et montre combien Eunice résiste sans jamais faillir. Bouleversant. Je suis toujours là a été salué lors de la dernière Mostra de Venise où il a reçu le prix du meilleur scénario et l'actrice Fernanda Torres, qui joue Eunice Paiva, a remporté le titre de la meilleure actrice dramatique au dernier Golden Globes. Film recommandé et de plus doté d'une incroyable bande-son. Je rappelle les références, Je suis toujours là, de Walter Salles.
Merci beaucoup Gaëlle. Pour moi ce sera un livre en cette rentrée littéraire de janvier. Lettre d'amour de Kamakura, d'un auteur qui s'appelle Ito Ogawa. Dans cette petite papeterie de Kamakura, Otoko accueille toujours les clients avec une tasse de thé Ojisha, choisie pour eux. Aujourd'hui, son âme d'écrivain public, restée plusieurs années en sommeil, se réveille. Avec enthousiasme, elle reprend le pinceau pour répondre aux demandes de ceux qui viennent la voir. Otako écoute, chacun avec douceur, choisit avec attention l'encre, le papier, le pinceau et la calligraphie, car elle excelle dans l'art difficile d'écrire pour les autres. Elle rédige une lettre d'adieu d'une mère à sa fille, goûte au daifuku d'un yakuza intello, calligraphie des lettres de désir ou d'espoir. Sa famille s'est agrandie et ses journées sont parfois tumultueuses, mais elle n'hésite pas à braver une tempête de neige pour remettre une lettre et prendre la mer sur les traces d'un amour ardent et interdit. C'est un bonheur de retrouver Kamakura, les promenades dans les temples ou sous les camélias en fleurs, avec la bienveillance contagieuse de Atoko et sa confiance dans le pouvoir des mots pour faire éclore en nous la grâce de vivre. C'est absolument magnifique, j'ai eu l'occasion de le lire pendant les fêtes de Noël, je vous rappelle, Lettre d'amour de Kamakura, signée de Ito Ogawa.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaëlle Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.